Bienvenue à cette conférence causerie, qu'on a appelée conférence causerie, autour du concept du buen vivir, sumak kausai en quechua ou bien sumakamanya en aymara, et de la question des droits de la terre. Il s'agit donc de réfléchir en revisitant un peu ce concept de buen vivir qui était le concept des communautés indigènes andines avant l'arrivée de la colonisation et de l'imposition de la modernité, de la civilisation occidentale. Mais il s'agira aussi de revenir sur le bon gouvernement des Incas. Et à ce titre, vous avez un livre ici publié par Alfredo qui s'appelle « Communalisme andin et bon gouvernement » que vous trouverez sur la table de livres en bas, aux éditions Libertalia. Et aussi revenir sur ce bon gouvernement des Incas qui était un gouvernement qui pratiquait une justice sociale beaucoup plus avancée que celle des gouvernements et des nations européennes à l'époque. Et plus proche de nous, on reviendra, enfin Alfredo reviendra sur la constitution de l'Équateur et de la Bolivie en 2008-2009, qui sont des constitutions qui instaurent, qui font entrer les droits de la terre dans la constitution. Pour ce faire, donc, nous avons invité Alfredo Gomez-Müller, qui est professeur émérite à l'Université de Tours en langue et civilisation latino-américaine, mais qui a également été professeur de philosophie. En effet, sa formation, une formation de philosophe et aussi de spécialiste de la langue et de la civilisation latino-américaine. Il est membre notamment des équipes de recherche Interaction culturelle et discursive à Tours, l'ICD, et de une autre équipe de recherche qui est Théorie politique contemporaine de l'Université nationale de Columbia. Des universités en Amérique latine qui l'invitent très souvent à venir exposer. Il est également membre de l'Université populaire pour la Terre, donc on comprend là son intérêt pour les questions environnementales. Et il a publié de nombreux livres en philosophie, mais aussi sur les questions latino-américaines et environnementales, dont celui-ci, un petit fascicule qui s'appelle « Les droits de la terre-mère, nature, pachamama et buen vivir », celui que je viens de vous montrer, « Communalisme andin et bon gouvernement », et aussi un petit peu plus ancien et sur une question un peu plus générale peut-être, enfin quoique, « Construction de l'imaginaire national en Amérique latine », le voilà, toutes ces choses dont il va nous parler maintenant. Et je le laisse vous expliquer comment va se dérouler cette conférence causerie, on va dire.
Bonsoir à tous et merci à tous d'être là. Alors, conférence causerie, oui, c'est plutôt causerie que conférence, c'est-à-dire quelque chose d'un peu informel. Hein, la conférence, ça fait un peu solennel, un peu lourd parfois. Donc là, ce serait plutôt une causerie. Donc on cause, comme quand on cause avec des amis, on échange. Et donc dans cette perspective, je vous propose le déroulement suivant. Donc je fais un exposé pour introduire quelques questions concernant les thèmes que vient d'annoncer Gloria. Et pendant cette présentation, si vous avez des questions de compréhension, donc s'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair ou qui mérite un développement, un éclaircissement, n'hésitez pas à m'interrompre pour préciser ce point. Par contre, les questions de fond, ou de débat, ou de discussion, je vous propose de les réserver pour la fin. Comme ça, l'exposé sera plus fluide. Bien, donc vous avez vu que Gloria a mentionné toute une série de thèmes. On ne peut pas raisonnablement aborder tout ça en une heure. Je vais quand même choisir quelques points qui me semblent les plus importants de ces deux derniers livres qu'a mentionné Gloria. Donc le dernier, c'est sur les droits de la terre-mère, nature, Pachamama et Buen Vivir. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui étaient là hier soir, pour la projection du film Oasis sur le Chili. Vous vous souvenez qu'il y avait un des personnages, un député, qui était très critique à l'égard du rapport de la commission de l'Assemblée constituante chilienne à propos des droits de la nature. D'ailleurs, c'était le mot qui apparaissait. Apparu hier sur l'écran, droit de la nature. Et ce député qui était très hostile à cette initiative, à l'idée même de droit de la nature, a pris le parti de se moquer d'une dérision. Il a mentionné la Pachamama, justement, la Pachamama comme quelque chose d'archaïque, de très ancien, quelque chose qui ne mérite pas d'être connu. Donc ça tombe bien, parce que Ça nous donne un peu l'occasion, c'est dans le titre de ce livre, Nature, Pachamama et Bonneville. Nous dirons un mot sur toutes ces questions-là. Mais le thème principal, hein, j'essaie de me plier au programme de ces 42e rencontres. Le thème principal des rencontres, c'est le buen vivir. Donc c'est l'essentiel, c'est le buen vivir. Or, comme nous allons le voir tout à l'heure, pour parler du buen vivir, il faut évoquer en même temps la question de la Pachamama. Donc a priori, il n'y a pas de rapport, mais bon, on va essayer d'expliquer pourquoi. Il est essentiel de ne pas dissocier ces deux questions. Alors, première chose à dire en guise d'introduction, buen vivir. Donc, vous voyez dans le titre des journées, je n'ai pas l'affiche ici, mais c'est écrit en espagnol, oui, buen vivir. Bon, tout le monde ne comprend pas peut-être l'espagnol, donc buen vivir. On peut traduire en français par le vivre bien, pas le bien vivre. Il y a déjà une nuance. Si vous aimez beaucoup le chocolat, les glaces, tout ça, le vivre bien, ce serait manger très souvent ou à chaque fois qu'on veut du chocolat et des glaces. Eh bien, ce n'est pas cet aspect plutôt matériel qui est ici en jeu. Il y a une dimension matérielle, bien sûr, nous en reparlerons, mais il ne s'agit pas essentiellement de cet aspect matériel, il s'agit d'autre chose qui transcende un peu le matériel et qui est difficile à définir et qui est au centre de la question du bien, du vivre bien, pas du bien vivre, mais du vivre bien. Buen vivir. Autre chose, certains d'entre vous, en tout cas ceux qui... éventuellement ceux qui ont fait un peu d'études en philo, ont des souvenirs d'Aristote ou de la philosophie grecque. Et dans la philosophie grecque, il y a ce concept de eusoia, donc en grec ancien, qu'on traduit habituellement par la vie bonne. Donc c'est une question qui est présente dans un horizon culturel et temporel, historique, très différent de l'univers andin, et a fortiori de l'univers andin contemporain. C'est en Grèce, donc en Grèce ancienne. C'est une pensée qui a laissé beaucoup de traces dans la pensée éthique, dans plusieurs cultures de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident, un peu entre guillemets. Il faut toujours se poser la question, l'Occident par rapport à quoi? Nous allons voir que la vie bonne, la question traditionnelle, qui est plus ou moins connue en tout cas par des spécialistes en Europe, la question de la vie bonne, en philosophie morale, en philosophie pratique, ne correspond pas vraiment à la question du vivre bien des cultures andines. Il y a des points de convergence, bien sûr, il y a quelques points de convergence, par exemple, tout ce qui concerne l'essentiel, à savoir l'enjeu, c'est le sens. C'est le sens de la vie, les valeurs dans la vie et de la vie. Il y a Socrate qui utilisait cette expression très, très connue chez les Grecs. La question de la vie bonne, c'est la question à propos de la vie qui vaut la peine d'être vécue. L'expression est un peu dure, qui vaut la peine d'être vécue. Aujourd'hui, nous dirions, dans un sens un peu plus moderne, plus contemporain, et qui nous parle davantage, nous dirions, c'est la question du sens, tout simplement. Au sens existentiel, comme quand on se pose la question, tout le monde, à un moment ou un autre de sa vie, s'est posé ou se pose ou se posera la question du sens de la vie, pourquoi nous sommes là, pas là dans cette salle, j'espère que nous savons à peu près pourquoi nous sommes là, mais là, c'est-à-dire dans le monde, pourquoi nous existons, tout simplement. Bon, cette question est aussi présente, elle est fondamentale, dans la problématique andine du buen vivir, du vivre bien. Donc c'est un point commun. Mais en dehors de ça, les approches, le contexte historique, culturel, évidemment, est très différent. Et donc les approches ne peuvent pas être tout à fait superposables. c'est une première chose à savoir. Le vivre bien n'est pas la vie bonne au sens des Grecs. Parfois, pour des facilités de langage, on entend et on peut dire, et pourquoi pas éventuellement, vie bonne, dans la mesure où ça paraît plus simplement du point de vue phonétique et de la langue. Ça paraît plus accessible que vivre bien, ça, avec un infinitif. Vivre bien, bon, parfois c'est un peu lourd, donc vie bonne. Bon, si on précise qu'on parle de vie bonne, mais pas forcément dans le sens grec, pourquoi pas, on peut l'utiliser. Alors, vivre bien, donc comme le rappelait Gloria, vivre bien, c'est la traduction d'un terme, de deux termes, de groupes de termes. L'un en langue quichua, le quichua de l'Équateur, et l'autre c'est le aymara, donc la langue du peuple aymara en Bolivie. Il y a les aymara aussi en Argentine et ailleurs, mais c'est surtout en Bolivie. En quichua c'est sumacausai, et en aymara c'est sumacamagne. Et en Équateur, on traduit le mot quichua sumacausai par vivir, buen vivir, buen vivir. Il y a d'autres traductions possibles, comme nous allons le voir, notamment vivre avec plénitude, une traduction en castillan. En castillan, c'est-à-dire l'espagnol, si vous voulez, mais ce n'est pas la même chose. Donc c'est plus précis quand même de dire le castillan. Et sumacamagne, c'est traduit en Bolivie par vivir bien. Vous voyez qu'il n'y a pas une unité, c'est aussi intéressant. Il n'y a pas une unité, même au niveau des conceptions, des traductions, il y a des différences importantes. Il faudrait voir pourquoi nous y arriverons. Alors, autre chose à dire, c'est un peu une sorte de mise en garde, mais d'appel à la prudence quand on emploie ces mots, quelle que soit la formule, hein, buen vivir, vivir bien, etc., sumacausai, sumacamagne, quelle que soit l'option retenue, il faut une certaine prudence quand on utilise ces mots, en ce sens qu'aujourd'hui, malheureusement, comme beaucoup de bonnes choses dans ce monde que nous vivons, ces mots sont utilisés un peu comme quelque chose qu'il faut dire pour être branché, c'est-à-dire des mots à la mode. Effectivement, il y a une sorte de mode, une mode politique, si l'on veut, ou autre, mais c'est une mode quand même. Et comme toutes les modes, c'est quelque chose de passager et très souvent de superficiel, et qui correspond souvent à des intérêts plutôt d'ordre commercial. Donc ce n'est pas quelque chose qui a vraiment une consistance propre, qui a un poids, qui a une densité au niveau de la pensée. Donc souvent, c'est employé comme une sorte de mode, et là nous entrons déjà un peu dans une démarche de problématisation, c'est-à-dire de voir les problèmes, essayer de discerner les problèmes qu'il y a sous-jacents, les problèmes qu'on ne voit pas de manière immédiate quand on utilise certains mots ou certaines théories aussi. Alors il y a effectivement quelques éléments, quelques faits, ce sont des choses qui relèvent des faits, du donné. Il y a des choses, c'est-à-dire, quand je dis des faits, du donné, ça veut dire que ce ne sont pas de simples opinions, des options idéologiques qui sont en jeu. Il y a des choses qui sont vérifiables et qui peuvent poser problème et qui peuvent conduire certains, en tout cas, à se demander... Est-ce que ce sont vraiment des mots qui expriment une sagesse ancestrale, comme on dit, ou tout simplement une sagesse? Ou est-ce que c'est quelque chose d'assez artificiel et qui correspond à peu de choses? Donc il convient de se poser ces questions, de prendre au sérieux ces questions. Ma réponse, c'est qu'il faut prendre au sérieux ces questions pour deux raisons que je vais essayer de développer. La première raison est d'ordre politique, je développerai plus tard. Et la deuxième raison est d'ordre historique. Il y a des raisons historiques qui nous permettent d'avoir toute une pensée, un discours qui a du sens, qui peut être argumenté, qui peut être communiqué aux autres à propos du bien fondé du point de vue. Alors, les difficultés au départ, ou les aspects problématiques, la chronologie, c'est important. Quand on donne beaucoup de choses et de phénomènes, il faut éviter de parler un peu en l'air, quoi, de parler de manière atemporelle. Buen Bibi, Suma Kamagne et tout le reste, ça a une chronologie. On ne retrouve pas ces expressions dans les cultures andines, au sens qu'on veut leur donner actuellement, avant la fin des années 90 ou le début des années 2000. Nous sommes en 2025. Donc c'est quelque chose d'assez récent, hein, vous le voyez, une vingtaine d'années. Fin des années 90, on ne parlait pas de Suma Kamagne dans le monde aymara, dans le sens utilisé aujourd'hui, ni de Suma Kausai, ni de Buen Bibi, ni de rien de ça. C'est ce qui fait dire, il y a un témoignage intéressant que rapporte un anthropologue équatorien, Breton, qui a parlé avec un comunero. Un comunero, c'est un paysan qui est rattaché à une commune dite indienne, entre guillemets. Après la discussion, si vous voulez, on peut justifier les guillemets, pourquoi il faut utiliser des guillemets si on veut utiliser le mot indien. Bon, en allemand, c'est parce que les Indiens ne sont pas des Indiens. On le verra plus tard. C'est une catégorie coloniale, et post-coloniale et néocoloniale. Mais par commodité, on peut employer indien avec guillemets si vous voulez. Donc, il y a un indien, entre guillemets, toujours. Enfin, je ne vais pas répéter à chaque fois, entre guillemets. Quand j'emploie indien, c'est dans ce sens-là que vous avez compris. Donc un indien qui est rattaché à une communauté, un comunero, à qui Breton demande, au lendemain de la promulgation des droits de la nature, de la nouvelle constitution de l'Équateur en 2008, il lui demande qu'est-ce que vous pensez, non, du Suma Kausai. Et cet indien Kichwa lui répond textuellement, que cosa será el Suma Kausai? Qu'est-ce que ça peut bien être, Suma Kausai? Donc le comunero de la base, pas l'intellectuel indien, mais le comunero de la base, le travailleur, le paysan, qu'est-ce que c'est le Suma Kausai? Il ne connaît pas ce mot. Bien, des commentaires de ce genre, on peut les trouver également en Bolivie, 3000 km plus au sud. Donc, pourquoi? Ça fait réfléchir. Autre chose, et en lien avec ce qui précède, autre fait troublant, quand on regarde les textes des organisations indiennes, par exemple de l'Équateur, parce que nous allons surtout parler de l'Équateur ici, on voit que avant la promulgation de la nouvelle constitution en 2008, dans les textes des organisations indiennes, y compris et surtout dans les textes officiels, les textes publics de la CONAI. La CONAI, c'est la Confédération des nationalités indiennes de l'Équateur. C'est la principale organisation indienne de ce pays, qui a été fondée en 1986. La CONAI a joué un rôle fondamental dans la vie sociale et politique de l'Équateur dans la décennie, surtout des années 1990, hein, jusqu'à 2000 et quelques. Après, elle a perdu quelque peu son pouvoir, son influence, mais c'est une des grandes organisations indiennes, dites indiennes, du continent américain. Donc l'Amérique, c'est d'abord un continent, hein. Ce n'est pas un pays. Aucun pays ne devrait s'appeler l'Amérique, ça n'existe pas. C'est un continent qui s'appelle l'Amérique. Il y a un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique du Nord, mais ce n'est pas un continent, hein. C'est un pays. Donc c'est une des grandes organisations indiennes du continent. Eh bien, dans les documents de la CONAI, vous trouvez, par exemple, dans le projet politique élaboré en 2001, il est question de philosophie intégrale. Il n'est pas question de Summa Causae, mais de philosophie intégrale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette philosophie intégrale ? Eh bien, c'est une philosophie, je cite, qui postule une étroite et harmonieuse interrelation entre l'homme et la nature. Voilà comment on définit ce qui deviendra plus tard Summa Causae. Mais le mot n'existe pas dans ce document de la CONAI. On dit philosophie intégrale. Dans d'autres documents plus anciens, dans le projet politique de 1994, on emploie le mot humanisme intégral, qui est encore très différent de Buen Vivir ou de Summa Causae. Donc tout ça, c'est aussi troublant. Donc, en fait, tout semble indiquer que ce mot n'avait pas vraiment une présence réelle dans l'univers indien de langue quechua. Et au Pérou, c'est la même chose avec le quechua. Et en aymara, c'est la même chose. Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur la question. Oui, en aymara, par exemple, camaña, ça peut exister. Camaña existe, bien sûr. Mais le Summa Camaña, d'après les experts, peut exister dans certaines régions des territoires aymara de Bolivie, mais avec une signification beaucoup plus restreinte, pas la signification de projet de vie, de sagesse concernant la vie, la manière dont on doit bien vivre ou dont on doit orienter sa vie pour être heureux. Donc on l'emploie dans un sens tout à fait autre. Un dernier point qu'on peut introduire pour problématiser, il y a également des chercheurs, des anthropologues notamment, comme Alison Spedding, bon, qui habite c'est une Anglaise, qui habite en Bolivie depuis 30 ou 40 ans déjà, et c'est une des personnes qui connaît assez bien le monde aymara et quechua de la Bolivie. Eh bien, Alison Spedding, ou alors Viola, qui est un anthropologue catalan, pose également des objections. Ils disent que ces mots, pour eux, sont vides de sens, dans la mesure où on ne peut pas trouver dans la réalité sociale, économique, c'est-à-dire dans les manières de s'organiser économiquement et de partager et de vivre ensemble et de vivre avec la nature, on ne peut pas trouver des éléments suffisants pour ou qui permettent de parler d'une sagesse ou d'un mode de vie alternatif au mode de vie existant dans les villes, à La Paz, dans la capitale, dans les grands centres urbains. Il n'y a pas des éléments qui permettent de construire un concept aussi général, aussi global. Il y a même, par exemple, Alison Spedding nous dit, avec une certaine ironie, mais c'est l'expérience que l'a eue dans ses contacts, dans ses travaux de terrain en Bolivie. Elle parle de ces réponses qu'elle a pu obtenir quand elle s'enquiert de données concrètes au niveau sociologique, économique, anthropologique, des données qui permettraient d'étayer l'idée d'un Summa Camaña. La réponse qu'elle reçoit invariablement des interlocuteurs aymara d'aujourd'hui, c'est « Mon grand-père me racontait que... » C'est-à-dire, à une certaine époque, on pratiquait telle ou telle relation de réciprocité ou d'échange, mais aujourd'hui, ça a disparu. Et le plus souvent, c'est remplacé par des règles impitoyables du marché. Donc, toutes ces questions, et faut en tenir compte. C'est vrai que il y a certains discours sur le buen vivir qui sont très idéologiques dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qui ne reposent pas sur une démarche critique, qui ne peuvent pas être vraiment argumentés, ce sont des opinions qu'on donne. Moi, je pense que, et un point, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'argumenter. C'est ça, idéologique, dans ce sens-là. Il y a des usages idéologiques, notamment dans ce que certains en Amérique latine appellent le pachamamisme, d'une manière un peu péjorative. C'est un discours qui finalement, un discours culturaliste qui considère un peu les cultures comme des essences éternelles, comme des réalités éternelles, qui ne sont pas dans le temps, qui ne sont pas dans l'histoire, par conséquent, qui ne sont pas remises en question par les changements historiques, et une sorte de choses éternelles, qui... qu'on trouve dans pas mal de discours identitaires, qu'on appelle aussi substantialistes, donc fermés, bloqués, avec des imaginaires tout à fait fantaisistes. C'est comme, par exemple, une fois, quand j'habitais à Paris, j'ai vu près d'une fac, il y avait une affichette d'un groupe d'extrême droite, qui disait « Debout la France » ou « Réveille-toi la France ». Et pour représenter la France, il y avait un Gaulois, comme Astérix, vraiment, avec son casque, avec ses. Autrement dit, il partait du présupposé que la France, ce que nous comprenons par France aujourd'hui, si nous demandons à quelqu'un « qu'est-ce que c'est que la France ?» Bon, pour tout pays, c'est compliqué. Il n'y a pas de réponse qui ferme la question, mais il y a quand même des repères. Nous avons une certaine idée, non, de à quoi ça renvoie ce mot France. Eh bien, considérer que c'est équivalent la France d'aujourd'hui à la France, pas la France, vous voyez le langage, le piège, à la culture des anciens Gaulois ou des peuples celtes, qui ont vécu il y a plus de 2000 ans, c'est non seulement un anachronisme, mais c'est une ignorance profonde. Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un autre monde. Si nous rencontrions ici un Gaulois, bon, ce serait quelque chose, ce serait très difficile de communiquer avec lui. Nous pourrions communiquer beaucoup plus facilement avec un Chinois, un Sénégalais, qu'avec un Gaulois, certainement. Mais bon, il y a ces discours essentialistes qui peuvent également essayer de s'approprier de ces discours du buen vivir et qui donnent finalement une image très idéalisée, très artificielle des mondes indiens contemporains qui sont beaucoup plus divers que ce qu'on pense. Souvent en Europe, on a le petit schéma, l'Indien, c'est quelqu'un qui a des plumes, qui a un arc, qui a une flèche, qui se promène dans les forêts. Bon, aujourd'hui, au Chili, par exemple, là, chez les Mapuche, l'essentiel, enfin, le pourcentage le plus important de population Mapuche ne se trouve pas dans les régions rurales. Cette population se trouve à Santiago et dans d'autres grandes villes du Chili. Donc ce sont des Indiens urbains, voilà, qui peut remettre en question des petits schémas préétablis. Des Indiens urbains, des Indiens qui s'habillent comme vous et moi, des Indiens qui travaillent, qui vont à la fac, qui sont mécaniciens, qui sont médecins, qui sont ingénieurs. C'est bon. Donc, alors il faut évidemment sortir de tout ça, de ces petits clichés qui malheureusement, à mon avis, ils n'ont pas vraiment contribué à donner une assise solide à cette question du vivre bien, qui est, là nous allons aborder donc les deux réponses de mon point de vue, on peut en discuter bien sûr, hein, c'est... Je ne prétends pas avoir la réponse avec un L majuscule, la réponse définitive et absolue. C'est une approche, tout simplement, qu'on peut discuter. Mais de mon point de vue, on peut utiliser ces mots dans un sens qui est extrêmement... fécond des points de vue culturels, politiques, sociaux, économiques, non seulement en Amérique latine, mais ailleurs, y compris ici en France. Donc, ce dont je vais parler maintenant, ce ne sont pas des choses exotiques ou qui relèvent d'un monde très loin, à 10 000 km d'ici, par-delà l'océan. Non, ce sont des choses qui nous concernent tous les jours. Et à mesure que les crises que nous traversons aujourd'hui partout et qui deviennent de plus en plus angoissantes pour tous, à mesure que ces crises se développent, l'actualité, la pertinence, la validité, l'importance de la question du buon vivere, du vivre bien, se repose d'une manière extrêmement importante. Et ce n'est pas par hasard que un peu partout dans le monde, en Europe, en France bien sûr, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, il y a tout un intérêt qui se traduit par le nombre de recherches, par exemple, des publications, de rencontres, de colloques, etc., qui porte sur la question du vivre bien. Donc ce sont des questions qui nous parlent beaucoup, notamment au niveau d'un mot qui permet d'englober toute une série d'aspects de la crise actuelle, une crise économique, crise sociale, crise de valeur, crise morale, crise politique, etc. C'est le mot que certains emploient comme... En France, il y a pas mal de personnes, des philosophes aussi, qui l'ont utilisé. Crise de civilisation. Une crise de civilisation. Donc, ce que nous vivons concerne les modes de vie. Est-ce que nous pouvons continuer de vivre comme avant, comme jusqu'ici, comme nous avons vécu au XXe siècle, comme nos ancêtres ont vécu au XIXe? Est-ce que c'est possible de continuer de vivre comme ça, avec, dans la même orientation, selon le même projet économique, social, politique, le projet économique, politique qui a été hégémonique en Europe et en France, hein, jusqu'ici? Est-ce qu'on peut continuer de vivre comme ça? Est-ce que notre rapport tout simplement à la nature le permet? Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable. Donc, c'est peut-être... on peut beaucoup discuter sur l'expression développement durable. Effectivement, c'est très discutable. Mais, quand même, elle exprime quelque chose. Pour la première fois, on se pose la question, le développement, est-ce qu'il y a un développement qui peut durer? Et on se rend compte, donc, que le développement, entre guillemets, ne peut pas, il y a des formes de développement qui ne sont pas tenables, donc qui s'effondrent d'eux-mêmes, tout simplement pour des raisons d'épuisement des ressources naturelles, par exemple. Un exemple. L'idée même de développement, qui est au cœur de ce qu'on appelle la civilisation, entre guillemets, occidentale, le développement. Qu'est-ce que c'est que le développement? Qu'est-ce que nous comprenons par développement? Est-ce que le développement se mesure par la croissance du PIB, par exemple? Est-ce que le développement se résume par l'augmentation du capital? Est-ce que c'est ça qui permet d'évaluer vraiment le développement? Bon, là aussi, depuis déjà au moins une trentaine d'années, ou voire plus, en Inde notamment, il y avait des économistes qui se sont posé la question et qui ont remis en question ce concept qui dominait tout le développement de l'économie et des institutions financières internationales, la Banque mondiale, etc. L'idée de développement, donc le développement à partir d'indices abstraits tels que le PIB. Alors, il y a des économistes en Inde, au Pakistan, il y a déjà une trentaine d'années, qui ont introduit le concept de humain, le concept de développement humain, qui est aujourd'hui une mesure qui fait l'objet de débats, de discussions, et qui est utilisée même au sein de certains organismes internationaux. C'est un exemple, tout simplement, un exemple pour évoquer ce qu'on appelle civilisation, la crise de la civilisation, notamment les notions de développement et de progrès aussi, qu'on croyait linéaire. Qu'est-ce qu'on entendait par progrès aussi? C'est l'accumulation de capital, l'accumulation indéfinie de capital, c'est ça le progrès? Bon, tout ça, aujourd'hui, les gens partout se posent des questions. D'où cet intérêt pour cette mémoire, culturelle andine qui s'exprime aujourd'hui avec ces mots-là, Sumak, Kausai, Buen Vivir et les autres. Donc, les deux réponses. On a jusqu'à quand non, il nous reste... On a commencé à quelle heure?
C'est à 3h30 passées,
3h35. Oui, donc il nous reste à peu près un quart d'heure, c'est ça?
Oui, un quart d'heure, 20 minutes, bon. 25 minutes.
Bon, je vais essayer en un quart d'heure, 20 minutes, les deux réponses, sinon après dans les questions on reviendra. Je disais la première réponse, c'est on peut mettre entre parenthèses la question de savoir si le buen vivir est une tradition ancestrale, une sagesse existante dans la vie réelle des peuples andins. Est-ce que c'est imaginaire? Est-ce que ça, c'est une réalité vérifiable? Est-ce qu'on peut la décrire? Est-ce qu'il y a, comme il arrive très souvent en politique, ou dans la vie humaine en général, est-ce que il y a des éléments qui relèvent de l'imaginaire et des éléments qui relèvent de l'expérience historique, les deux? Tout ça, on peut le mettre entre parenthèses et examiner pour l'instant simplement l'aspect purement politique de l'usage de ces notions, vivre bien, etc. L'aspect politique qui se traduit tout d'abord par la reconnaissance dans la constitution de l'Équateur de 2008, la reconnaissance pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des droits de la nature au niveau constitutionnel. Jusqu'à présent, dans aucun pays du monde, on trouvait une constitution, disons à cet échelon, à ce niveau, qui est quand même extrêmement important du point de vue politique, juridique. Donc c'est la charte, la constitution, donc c'est la loi suprême. C'est ce qui sous-tend toutes les lois. Eh bien, à ce niveau-là, en Équateur, on reconnaît pour la première fois les droits de la nature ou de la Pachamama, j'y reviendrai, droits de la nature ou de la Pachamama, et en même temps, on intègre une autre expression quichua, la Pachamama, c'est la première, et puis l'autre expression quichua qui est intégrée à la Constitution de 2008, c'est sumac causai, qu'on traduit donc par buen vivir. Donc vous avez là une constitution qui reconnaît dans un document qui a une portée, une dimension d'orientation, c'est ça une constitution, d'orientation fondamentale de la vie d'un pays, de délimitation du cadre des institutions, telles qu'elles soient. Donc, à ce niveau-là, nous trouvons cette idée de vivre bien, le vivre bien dans une constitution. Bien, cela a eu un impact très considérable politique. Donc, c'est un fait politique, tout d'abord. Et ce fait politique a eu un impact énorme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, à tel point que aujourd'hui, bien au-delà de l'Équateur et du Pérou et de la Bolivie, dans d'autres pays de l'Amérique latine, même en Amérique centrale, c'est pas des régions andines, hein, c'est plus les Andes, c'est plus l'Amérique du Sud. Même dans ces régions-là, des communautés indiennes utilisent dans leur langage propre, par exemple les Mapuches en Chile, au Chili, ils parlent de Kum et Mogen. Eh bien, pareil chez les Guarani, chez les Mayas, dans d'autres cultures, on trouve des équivalents, en fait, des expressions qui sont présentées comme équivalentes de sumaka usai, sumaka magna, buen vivir. Autrement dit, c'est aujourd'hui pratiquement dans toute l'Amérique latine, dans les cultures indiennes, il y a une réappropriation de cette expression. Et au-delà des communautés indiennes, il y a aussi des milieux non indiens, des milieux surtout, on pourrait dire que certains disent plébéiens, des milieux populaires non indiens, qui également sont tout à fait ouverts à cette pensée, ce questionnement, qui est essentiellement un questionnement et une pratique, bien sûr, à propos du vivre bien.